Vous écoutez France Musique.
Changer de disque, Émilie Munera.
Au programme, le 40e anniversaire du Kronos Quartet, un concerto de Beethoven sans orchestre et des lamentations baroques. À 17h30, exceptionnellement aujourd'hui, on a changé le jour, la chronique en partenariat avec Diapason. C'est Gaëtan Nolo qui sera à mes côtés, nous parlera du dernier volume des cantates de Bach signé Masaaki Suzuki. Le Kronos Quartet, je vous en parlais à l'instant, il fête ses 40 ans. C'est une formation créée en 1973 qui s'est produite sur les scènes du monde entier, qui a interprété toutes les musiques d'aujourd'hui sur le territoire et sur toute la planète. Et c'est un nouveau coffret qu'on a sous le label Nonesuch, ainsi qu'une nouveauté. Extrait de Cry of a Lady de Terry Riley, le mystère des voix bulgares, le cœur donc de femmes bulgares, Dora Ristova pour la direction et le Kronos Quartet, c'est extrait de leur dernier disque tout nouveau qui s'appelle A Thousand Thoughts, et le fondateur David Harrington, qui était interviewé dans le Figaro au mois de mai, se souvenait du début de son quatuor. Il avouait que les premiers temps, il disait dans le Figaro, que sa seule préoccupation était de savoir si on allait réussir à tenir une semaine. Il raconte aussi dans le quotidien qu'il a créé le quatuor pour, je cite, montrer que le genre pouvait s'adresser à des compositeurs de tout horizon, de toute nationalité, par la même occasion toucher un public de tout âge et de toute culture, parce que c'est vrai qu'il remarquait à cette époque, dans les années 70, que le répertoire du quatuor était essentiellement viennois et puis que ça n'intéressait absolument pas les jeunes, et il a eu envie comme ça de montrer que c'était un genre qui pouvait attirer absolument tout le monde. Ce sont les minimalistes américains qui se sont d'abord emparés de la formation, mais cette formation va aussi aussi invité des artistes rock à écrire pour ces quatre musiciens. 40 ans plus tard, 840 créations à leur actif, le Quatuor Chronos ne cesse de se produire et de défendre donc les musiques du monde entier, comme vous pouvez l'entendre dans ce disque, cette nouveauté au Thousand Souls, on passe vraiment par tous les pays. Et puis il y a également un coffret pour retracer les 40 ans, un coffret assez représentatif de ce qu'a pu faire le Chronos Quartet, avec un extrait d'un de leurs disques qui s'appelle Night Prayers. Du Lacrimosa de Dmitri Yanofinovski avec la voix de Don Upshaw, accompagné par le Chronos Quartet. Le disque s'appelait, et s'appelle toujours d'ailleurs, Night Prayers. Elle fait partie du coffret consacré au Chronos Quartet qui regroupe 5 disques représentatifs de leur travail depuis leurs 40 ans de collaboration. Et donc cette nouveauté en plus, Thousand Souls, qui nous fait entendre la musique de 14 pays différents. Voilà de quoi fêter un très bel anniversaire d'un quatuor qui fait énormément pour la création. Elle est de toutes les éditions Vivaldi du label Naïf. C'est la chanteuse Romina Basso. Elle sort un disque consacré au Lamento. Alors évidemment, il est le plus célèbre des Lamentos jamais écrits, le Lamento d'Ariane de Monteverdi. Donc voici les premières mesures, mais après une petite introduction instrumentale. Thank you. Les premières mesures du Lamento d'Ariane de Claudio Monteverdi, avec, juste avant pour le précéder, un capriccio signé Frescobaldi, la voix de Romina Basso avec l'ensemble Etinitas Nostras et Markelos Chrysikos pour le diriger, un disque qui sort sous le label Naïve avec donc ce titre Lamento, et ce Lamento d'Ariane qui était au XVIIe siècle le modèle incontesté du genre. Par la suite, il va y avoir Cavalli, élève de Monteverdi, qui va devenir le plus célèbre créateur de Lamento de son siècle, et il y a sur ce disque un lamento d'une de ses élèves, c'est Barbara Strozzi. Luigi Rossi, lui aussi, va être un compositeur prolifique dans le genre, l'un des plus célèbres et emblématiques, fut celui qu'il a écrit pour la mort du roi Gustave II Adolphe en 1632. Et on va écouter maintenant une œuvre également écrite pour la disparition d'une personnalité royale, c'est le Lamento pour la reine Marie Stuart, et c'est écrit par Carissimi.
Oh,
Le lamento sur la mort de Mary Stuart, c'est Giacomo Carissimi, interprété ici par Romina Basso, l'ensemble Latinitas Nostra de Marcellos Crisicos. Et c'est un disque sous le label Naïve qui s'appelle tout simplement Lamento. On l'attendait depuis bien longtemps déjà en solo, Romina Basso, puisque je vous dis beaucoup de bien d'elle dans cette émission à chaque fois, dans les opéras, dans toutes les éditions Vivaldi Naïve dont je vous parlais. Donc la voici, c'est l'occasion de l'entendre seule tout au long de ce programme. Avec, vous avez vu en introduction, donc comme je vous le disais tout à l'heure, quelques pièces instrumentales comme Capsberger ou encore Frescobaldi et cette voix grave toujours de Romina Basso. Nouveau disque encore, Cyprien Katsaris qui enregistre Beethoven. On sait que c'est un pianiste très virtuose, il adore les transcriptions, il a joué les symphonies de Beethoven dans leur transcription de Liszt et cette fois, il signe sa propre transcription du concerto de l'Empereur. On va l'écouter dans quelques instants, mais d'abord un extrait de l'autre version du disque, version originale pour piano et orchestre, avec Neville Marriner à la baguette.
Thank you.
Extrait du 5e concerto de Beethoven, concerto de l'Empereur, dans la version de Cyprien Cazaris. Sir Neville Marriner à la tête de son Academy of St. Martin's in the Fields pour ce nouveau disque qui est sorti donc sous le label Piano 21, qui est le label de Cyprien Cazaris. Et c'est un enregistrement qu'il dédie à sa mère, qui lui a fait découvrir très jeune ce concerto dans la version d'Horowitz et Fritz Reiner. Et finalement, c'est cet enregistrement qui lui a donné envie de construire une transcription du concerto pour piano seul. Il explique que quand il écoutait ce disque enfant, il ressentait une grande frustration concernant le magnifique tutti introductif du premier mouvement. Et il disait qu'il avait très envie, lui, de le jouer et, pour lui tout seul. Et c'est ce qu'il a fait. Il dit que c'est un besoin égoïste, finalement, vieux de 55 ans. Mais en tout cas, il a réussi à satisfaire ce besoin. En voici donc les premières mesures, le premier mouvement et le tutti. On met encore de l'orchestre, mais en fait, on va écouter au piano Cyprien Cazaris dans cette version qui est donc un premier enregistrement, évidemment, puisque c'est sa propre transcription. Et Cyprien Cazaris qui a décidé d'enregistrer ce 5e concerto de Mozart, lui tout seul. Voilà, court extrait de la version piano du concerto de l'Empereur. Donc, il a transcrit Cyprien Cazaris et l'orchestre et le piano pour jouer tout seul. Et c'est sorti sous le label Piano 21. 17h30 sur France Musique. Bonjour Gaëtan Nolot.
Bonjour Émilie Minera. Je note que vous ne m'avez pas interrogé sur mon sentiment du concerto transcrit par Cazaris ou joué par Cazaris.
En fait, j'ai cru que vous alliez carrément quitter le studio, tout ça. J'ai eu peur que vous ne reveniez plus jamais, mais vous êtes quand même super sévère. Hein.
Ouais,
d'accord.
Très vilain, très très vilain.
J'aurais dû vous accueillir avec Romina Basso.
Mais voilà, Romina Basso, que j'adore, elle nous sort enfin un disque. Alors, tout un disque de Lamento, c'est très triste, si j'ose dire. Mais c'est un disque formidable. Et puis, c'est ma blague favorite. Vous avez vu une Romina.
Vous n'avez pas vu une Romina.
Vous avez pas vu une Romina.
Gaëtan Nolot.
Voilà pour les blagues.
Voilà, mais qu'est-ce qu'on s'amuse quand même sur France Musique. Alors, Gaëtan, le diapason d'or du mois de juin, je vais y arriver, de diapason. Alors, moi, je pensais que vous étiez que gardineur pour Bach, finalement, non?
Non.
Ah, mais dis donc, j'apprends quelque chose.
Écoutez, vous mettez en plein dans le sujet, Émilie. Merci beaucoup, parce que si je devais conseiller une intégrale des cantates de Bach, ça serait très difficile. Pourtant, a priori, c'est à peu près... C'est une musique qui évolue, mais le style, on le reconnaît. Donc, un interprète qui est bon dans une cantate devrait l'être aussi dans une autre, et à plus forte raison, dans les 198 autres. Et ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Dans Gardiner, il y a des choses parfaitement réussies et puis des choses un petit peu moins bonnes. Bon, chez Koopman, il y a des choses réussies et puis des choses moins bonnes. Bon, on n'est jamais sur les mêmes hauteurs. Et puis dans l'intégrale Arnoncourt-Léonard, c'est extrêmement inégal et, de la et par la réalisation instrumentale. Bon, ça, c'est une autre génération aussi hein, pour les instruments anciens. Mais inégal aussi par le sentiment et c'est impossible de prévoir. On aurait pu penser qu'avec Suzuki, avec un esprit de système, parce que c'est effectivement très systématique comme lecture du texte de Bach, ça serait prévisible. Eh bien, pas du tout. C'était très inégal. Et là, on vient d'en faire les frais, parce que l'intégrale est enfin finie. Ça aura duré 18 ans quand même, depuis ce premier disque par une petite jeune équipe installée à Kobe, au Japon. 18 ans, d'ailleurs, comme l'intégrale d'Arnoncourt et Léonard, hein, qui commençait en 71, qui se terminait en 89. Et 18 ans, au terme desquels, on a encore une surprise, c'est-à-dire que le dernier volume, le 55, est bien, sans plus, bien. Et le 54 est fantastique. Voilà, donc diapason d'or pour le volume 54. Et pour qu'on entende ces questions d'esprit de système et pourtant les petites finesses qui restent, on a un exemple parfait ici. Parce qu'on a deux airs qui sont donnés dans la cantate BWV 197 et qui sont repris dans une cantate qui était une cantate pour Noël. Hein. L'une était pour un mariage, l'autre pour Noël, mais en gros, on change le texte, ça marche très bien. Et on va entendre la même musique, les mêmes notes, à peu près une instrumentation à peu près identique, le tempo exactement identique, et vous allez voir que ce n'est même avec Suzuki, ça change, ça vibre différemment. Voilà, première mouture. Voilà, ça c'est la voix de Peter Coy que connaissent tous les amoureux de la musique de Bach. Peter Coy qui est toujours là, d'ailleurs, la voix oui. n'a pas beaucoup bougé.
Avec
Philippe Hervec, beaucoup. Et maintenant, Madame Anna Blazikova, donc la même musique, à peu près, et pourtant un autre sentiment. Voilà, donc à peu près la même musique, pas du tout le même sentiment. Donc quand on dit oui, Suzuki, c'est toujours la même chose, c'est systématique, à un certain degré, c'est vrai. Et là, on vient d'entendre exactement le contraire, c'est enregistré en même temps, c'est la même musique, pas les mêmes instruments. Et le résultat est complètement différent aussi, parce que tout simplement, la chair des instruments et puis la chair des chanteurs hein, va rentrer dans l'équation. Suzuki, il a choisi d'enregistrer son intégrale par ordre chronologique. Donc là, on arrive à la fin, enfin pas à la toute fin de la vie de Bach, parce qu'il n'a quasiment pas composé de cantate après 1745. Mais quand même, on arrive notamment en 1735 avec une cantate très intéressante. Bach renouvelle tout le temps les formes. Il renouvelle tout le temps le contrepoint, c'est son oxygène, c'est son sang le contrepoint. Et là, il va faire quelque chose qu'il n'avait jamais essayé, c'est-à-dire une écriture qui va d'abord être très sévère à quatre voix, un contrepoint très sévère à quatre voix, et puis va s'immiscer le thème du choral en cantus firmus. Alors vous allez me dire, ce thème du choral en valeur longue, comme ça, qui rayonne, on est habitué de l'entendre chez Bach. Oui, mais on est habitué de l'entendre chanter. Ici, il va s'insérer uniquement par les instruments. Donc on a cette tension de la polyphonie à laquelle Suzuki donne toujours beaucoup de profondeur parce que c'est très articulé. On a cette couche, c'est un peu comme dans un gâteau, hein. Vous avez cette couche de confiture là avec le cantus firmus, vous avez beaucoup de relief et je trouve ça admirable. Disons que plus la musique de Bach, je trouve, est complexe, plus elle est polyphonique, plus elle réussit avec Suzuki.
Thank you.
Voilà, on quitte ce grand mouvement, ce grand massif de contrepoint qui est le premier chœur de la cantate 14. Alors 14, il ne faut pas croire qu'on est au début de la vie de Bach, hein, la classification n'est pas chronologique. On est en 1735 et on voit Bach qui va vers l'art de la fugue. Hein. On a une purification et à la fois une complexité du contrepoint fantastique dans ce mouvement-là, puis avec les couleurs et puis avec le rythme que Suzuki met dans le contrepoint. Ce n'est pas lisse du tout, c'est très... Bon. Et moi, ça me fait penser à un autre musicien qui est Gustav Leonhardt. Et un jour, un journaliste l'interviewe, c'est paru dans un livre d'entretien, et lui demande « Ah, monsieur Leonhardt, l'un de vos anciens élèves, Ton Koopman, est en train d'enregistrer les cantates de Bach, comme vous l'avez fait hier, comme vous l'avez fait il y a 20 ans avec monsieur Arnoncourt. Est-ce que vous avez entendu ces enregistrements? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Leonhardt ?» Ah oui, oh, vous savez, je n'ai pas le temps de l'entendre. Non, je n'ai pas le temps d'entendre des disques, on m'envoie des disques. Bah, bref, il nous raconte pendant 2 minutes qu'il n'a pas le temps d'entendre des disques. C'était vraiment impossible qu'il ait entendu les disques de Koopman, qu'il avait bien reçu. Mais il précise, mais en revanche, il y a une intégrale des cantates qui vient du Japon et que je trouve très bien. Ce qui était, bon, une vraie cruauté, une vraie méchanceté envers son ancien élève, Ton Koopman. Et c'est clair qu'ils ont eu des relations un petit peu houleuses. Mais surtout... Ce qui souligne, je crois, une certaine parenté d'esprit hein, entre Leonhardt, qui n'a pas été élève, entre Suzuki, qui n'a pas été élève de Leonhardt, et Leonhardt, voilà, une concentration. On ne cherche pas à faire du joli, on ne cherche pas à faire du lisse. On met beaucoup de rythme dans le contrepoint, beaucoup de tension. On ne cherche pas à avoir du chant mélodieux. Alors parfois, c'est assez vilain, il faut le dire, hein, parmi les chanteurs de Suzuki, ce n'est pas toujours le paradis. Mais quand ça marche, et notamment dans ce volume 54 des cantates, je trouve ça absolument admirable et très unique. Donc voilà, impossible de vous dire, prenez tout Gardiner, prenez tout Arnoncourt, les cantates de Bach, c'est comme le reste, ça vit par les interprétations, et plus elles sont inspirées, et plus elles sont diverses, et mieux nous écoutons ces musiques.
Merci Gaëtan Hollot. On fera voilà, peut-être un jour en diapason un de chaque, hein. Vous prendrez les meilleurs, et puis on se fera une intégrale avec du Gardiner, avec du Suzuki. C'est ça qu'il veut que vous fassiez, Gaëtan. Voilà, je vous laisse aller travailler, du coup. Merci à vous, et on reparlera de Masaaki Suzuki la semaine prochaine, puisqu'il continue une exploration de la musique de Jean-Sébastien Bach.
Il n'a pas fini. Cantate profane.
Voilà, cantate profane. On l'a entendu déjà dans les concertos pour clavecin aussi. Oui. Donc il continue son périple Bach. À bientôt, Gaëtan. On se revoit début juillet, et on continue avec de la guitare. Thank you. La sonate Kirkpatrick 1 de Scarlatti version guitare par Thibaut Covin. C'est extrait d'une compilation avec un titre qui vous semblera sûrement familier. Je n'aime pas la guitare classique, mais ça j'aime bien. Les célèbres compilations RCA Sony illustrées par des dessins de Sempé. Et les artistes les plus célèbres, évidemment ici, issus du répertoire et du catalogue RCA Sony, Julian Bream, Alexandre Lagoya, entre autres. Et donc je voulais vous faire entendre Thibaut Covin, puisque son disque est sorti il y a peut-être environ un an. Ça devait être en mai 2013, avec un florilège de sonates de Scarlatti. J'avais trouvé que c'était très réussi, un jeune guitariste très talentueux, extrêmement sympathique en plus, donc ça fait quand même quelque chose aussi. Et son disque a eu pas mal de succès, c'était très mérité. Donc deux disques avec des chefs-d'œuvre du répertoire, Rodrigo, Albéniz, Yepes, Bach, Villa-Lobos. Ça s'appelle « Je n'aime pas la guitare classique, mais ça, j'aime bien ». On va finir cette émission avec Bertrand Billin, excellent chef français qui entame une série d'enregistrements avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Il est le principal chef invité de cette formation. Et au programme, il a choisi Beethoven et Cherubini, du vocal et de l'instrumental. extrait de la symphonie en ré majeur de Luigi Cherubini. C'est l'orchestre de chambre de Lausanne avec le conducteur Bertrand de Bigny, un orchestre qui est quand même habitué à travailler entre autres avec Christian Zacharias. On vous en parle souvent puisqu'ils ont enregistré les concertos de Mozart avec Zacharias au piano et à la direction. Et donc leur nouveau principal chef invité, ce chef français qui fait une très belle carrière à l'étranger, notamment en Autriche et qu'on n'entend malheureusement pas assez chez nous. Et vous voyez ici une vraie vivacité, des cordes très précises, beaucoup d'énergie. Ça, c'est pour le côté instrumental, cette symphonie de Cherubini. Et il y a également l'ouverture Léonore 1 de Beethoven, très bien interprétée à nouveau. Et puis, pour le vocal, il y a deux airs qui sont défendus par une soprano suédoise. Je ne la connaissais pas personnellement. Elle s'appelle Maria Bengtsson. Elle chante un air de Médée de Cherubini. Alors, petit bémol sur la prononciation. C'est vrai qu'on met parfois un peu de temps à comprendre que c'est un air en français. Mais par contre, elle enregistre également l'air célèbre A perfido de Beethoven. Et là, c'est très réussi. Elle a un très beau timbre. Et le journal suisse Le Temps l'a tout de suite remarqué. Il saluait dans son quotidien, dans une critique du quotidien, je cite, une très belle voix, aussi pulpeuse que fine, un disque plus original qu'on pourrait le croire, concluait le journaliste du journal Le Temps. Pas ennuyeux du tout, c'est vrai, ce programme, vous allez pouvoir le constater grâce à Maria Bengtsson.
Thank you.
Escret de cet air à Perfido de Beethoven, et c'était donc Maria Bengtsson avec Bertrand Deby, l'orchestre de chambre de Lausanne, pour ce disque qui regroupe donc la musique de Beethoven et de Cherubini. Cet extrait du ce label MDG Gold. Merci à l'équipe du jour, François Prou, Antoine Giraud, Julie Guerroux, Philippe Petit et Flora Sternadel.